Il est 8h. Et soyez les bienvenus sur France Inter, voici le journal de Sarah Guibaudeau. Bonjour Sarah.
Bonjour. Un nouveau scandale de pédophilie secoue l'église catholique aux États-Unis. Plus de 300 prêtres prédateurs ont été identifiés en Pennsylvanie, mais les faits sont en général trop anciens pour être poursuivis. Nous serons en direct de Gênes où les sauveteurs ont travaillé toute la nuit dans les décombres du viaduc. Des voitures et des camions précipités dans le vide hier midi comme dans un film d'apocalypse et une polémique qui enfle en Italie sur la sécurité des infrastructures. Le président turc appelle désormais à boycotter les appareils électroniques américains, mais sur les marchés d'Istanbul, nous le verrons, ce sont les produits de première nécessité qui flambent. C'est un peu le rendez-vous de l'été pour l'enseignement supérieur. Sans surprise, le classement de Shanghai met encore à l'honneur les universités anglo-saxonnes. Première parmi les françaises, la Sorbonne arrive 36e, explication dans un instant. Le médiateur du crédit aux partis politiques a été nommé. Son rôle, aider les candidats à se financer. La déception pointe déjà notamment au Rassemblement national qui a un urgent besoin d'argent. Le loup a bien étendu son territoire jusqu'au département de l'Yonne. L'analyse ADN des poils retrouvés sur le lieu d'une attaque de troupeaux le confirme et inquiète les éleveurs. Sur grand écran ce mercredi, Le Monde est à toi, un film de gangster en forme de farce et un casting qui rassemble plusieurs générations du cinéma français. Combien d'abeilles rescapées dans les ruches ? On en parle avec vos invités, Eric, dans le grand entretien entre 8h20 et 9h moins le quart.
Oui, à l'occasion du vaste recensement des abeilles lancé par le ministère de l'Agriculture, deux invités, effectivement. Axel de Courty, directeur scientifique de l'Institut de l'Abeille à Avignon, et un apiculteur, Franck Allétru, il est président du syndicat national d'apiculture. Vos questions à nos deux invités, c'est dès maintenant au téléphone, le 01 45 24 7000.
France Inter. L'Église catholique américaine se retrouve à nouveau au cœur d'un scandale de pédophilie. Par son ampleur, il rappelle celui de Boston il y a une quinzaine d'années qui avait inspiré le film Spotlight. L'affaire concerne cette fois la Pennsylvanie. L'enquête du procureur a été soumise à un jury populaire qui, faute de pouvoir poursuivre des faits souvent trop anciens, a décidé de dévoiler le nom des prêtres mis en cause. La liste est longue, Grégory Phillips.
Un prêtre du diocèse d'Harrisburg a abusé de 5 sœurs d'une même famille. La plus jeune n'avait que 18 mois. Dans le diocèse de Greensburg, un autre prêtre a mis enceinte une jeune fille de 17 ans, l'a épousée, avant de divorcer quelques mois plus tard. Dans un troisième diocèse, un prêtre a agressé sexuellement une douzaine de jeunes garçons. Le rapport de presque 900 pages est édifiant. Il est le résultat de 2 années d'enquête. Le bureau du procureur a épluché 1,5 million de documents appartenant à l'Église. Et les jurés concluent que presque à chaque fois, au fil des 80 dernières années, les faits ont été dissimulés et que les agresseurs présumés ont été protégés par leur hiérarchie. Au total, au moins 1 millier d'enfants victimes et 301 prêtres prédateurs identifiés. Mais en vérité, ils étaient sans doute beaucoup plus nombreux, dit le procureur de Pennsylvanie, Josh Shapiro.
Nous avons en réalité reçu des dossiers concernant plus de 400 prêtres, mais on a fait très attention à ne pas citer leurs noms si les informations étaient trop maigres. La liste des prêtres est donc très longue, mais en vérité, on ne pense pas qu'on les a tous eus.
La plupart des faits relatés dans ce rapport sont prescrits. Seuls 2 prêtres sont poursuivis. Le jury préconise d'ailleurs de modifier la loi dans cet état de Pennsylvanie afin qu'il n'y ait plus de prescriptions concernant les crimes sexuels sur des enfants. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
L'Italie à présent, l'Italie où les sauveteurs ont travaillé toute la nuit dans les décombres du viaduc de Gênes.
Le bilan provisoire de la catastrophe s'élève à au moins 35 morts et une quinzaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Surtout des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds précipités dans le vide quand le pont s'est effondré hier en fin de matinée sous une pluie battante. La zone industrielle sinistrée, 45 mètres en dessous de l'autoroute, était heureusement quasiment déserte en cette semaine du 15 août. Delphine Evenou, vous êtes notre envoyée spéciale à Gênes. Bonjour.
Bonjour.
La ville se réveille sous le choc devant un paysage dévasté.
Oui, ce pont que les habitants ont surnommé le pont de Brooklyn en raison de sa forme particulière, ce pont que tout le monde emprunte ici ne relie plus l'est et l'ouest de Gênes. À la place, un immense tas 45 mètres plus bas, donc de carlingues enlacées de béton et de fer, où des centaines de secouristes fouillent encore ce matin. Les équipes se sont relayées toute la nuit pour tenter de retrouver des survivants. Il y a quelques heures, 2 immenses pelleteuses jaunes ont été déployées sur place. Elles vont permettre de passer à la deuxième phase des opérations avec le soulèvement des énormes blocs de béton. Tout cela va durer au moins jusqu'à ce soir.
Le viaduc de Gênes, construit dans les années 60, avait vite posé des problèmes de structure et déjà coûté cher en travaux de maintenance. Après l'émotion, Delphine, les Italiens sont gagnés par la colère.
Oui, c'est un pont que chaque Génois utilise, des bouchons monstres le matin à l'heure de pointe. C'est peut-être là le problème pour Laura, venue observer les opérations de secours.
Comme il y avait beaucoup de voitures qui passaient dessus tous les jours, tous les camions, le trafic était très dense. C'était le principal axe autoroutier de la région. D'après nous, il n'a probablement pas supporté cette charge. On a du mal à l'imaginer s'effondrer comme un château de cartes.
Le pont tremblait parfois quand des poids lourds passaient, racontent certains habitants. Il y avait des problèmes, confirme Franco.
Je faisais le trajet deux fois par jour. Je la fais depuis 30 ans, cette route-là. Je l'ai vu se dégrader depuis toutes ces années. Quand il pleuvait, l'eau s'emmagasinait dans des creux et la voiture dérapait. Ça devenait difficile.
Ce matin, alors que toute la presse italienne pointe du doigt l'état du pont Morandi, le gouvernement tente de se montrer à l'offensive. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a promis hier soir sur place un audit des infrastructures routières. Le ministre des Transports, le chef de file du mouvement 5 étoiles, arrive ce matin. Quant à l'omniprésent ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, et qui a déjà tonné que les responsables paieraient très cher, il est attendu à Gênes cet après-midi.
Merci Delphine Evenou en direct de Gênes avec notre technicien Luca Lucquins. Au Brésil, les partisans de Lula marchent sur la capitale pour défendre la candidature de l'ancien président condamné pour corruption. Lula a lui-même signé depuis sa prison une tribune dans le New York Times où il dénonce un coup d'État de la droite. Le Parti des travailleurs va donc déposer aujourd'hui sa candidature pour un troisième mandat. Candidature qui a priori n'a aucune chance d'être validée mais qui est toujours très populaire. Le président Recep Tayyip Erdogan a appelé hier les Turcs à boycotter les appareils électroniques américains. Une escalade dans la crise diplomatique avec les États-Unis qui n'a pas empêché la livre turque de se stabiliser hier sur les marchés après la dégringolade de la semaine dernière. Mais sur les réseaux sociaux, des internautes ont vite répondu avec ironie qu'ils n'auraient bientôt plus les moyens d'acheter des iPhones. La chute de la monnaie alimente la hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat, comme l'a constaté Anand Lower sur ce marché d'Istanbul.
À côté de son four à bois où il fait cuire ses simites à l'ancienne, Emir Özdemir a installé un écran de télévision. Il y suit quasiment heure par heure les hauts et les très bas de la livre turque, pendant que la pâte lève tranquillement dans le four. Farine, sel, eau, levure, mélasse et sésame, la recette des simites est simple, mais elle coûte de plus en plus cher à ce petit chef d'entreprise.
Le prix du sésame et de la farine importée est indexé sur le cours du dollar. Il augmente d'une à deux livres par mois. Ça fait grimper mes coûts de production et je gagne donc moins d'argent.
Cette année, le prix de l'anneau de sésame a déjà augmenté de plus de 16%, comme le taux d'inflation actuel. Les produits importés sont les plus touchés, mais la production locale n'est pas épargnée. Atidje Sezen, une enseignante à la retraite, s'en plaint chaque fois qu'elle fait ses courses.
Parfois, les prix augmentent plusieurs fois dans la semaine. Les légumes, le fromage, les olives, les produits d'entretien, tout. J'ai peur que ça ne s'arrête jamais. À cette époque de l'année, j'avais l'habitude de manger de belles tomates. Je ne peux même plus me le permettre.
Dès lors que les Turcs, notamment ceux des classes moyennes et défavorisées, sont touchés au porte-monnaie, l'effondrement de la livre devient un risque politique pour Recep Tayyip Erdogan. Raison pour laquelle le président turc met la crise sur le compte d'un complot de puissances étrangères. Un endroit Istanbul, France Inter.
Malte a finalement accepté hier d'accueillir l'Aquarius et ses 141 migrants sauvés au large de la Libye. Des naufragés qui seront ensuite répartis entre plusieurs pays européens, 60 en France, les autres en Allemagne, au Luxembourg, au Portugal et en Espagne. Le classement de Shanghai des meilleures universités mondiales est toujours très critiqué en France, mais toujours très regardé aussi. Car qu'on le veuille ou non, c'est une référence. Pas de grand changement en ce qui nous concerne dans le palmarès 2018. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Les universités françaises peinent toujours à convaincre le jury.
Oui, la France s'était pourtant fixée pour objectif d'entrer dans le top 20 du classement de Shanghai sous Nicolas Sarkozy déjà en 2009, mais c'est toujours loin derrière qu'arrive la première université française, Sorbonne Université. 36e position, grappille tout de même 4 places par rapport à l'an dernier. Sorbonne Université, issue de la récente fusion de Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie, puis Vienne Paris-Sud, 42e et l'école normale supérieure, 64e sur 500. L'université de Bordeaux, elle, recule de 100 places par rapport à l'an dernier. La France reste 6e si l'on regarde la totalité du classement. Elle se maintient. Les 10 premières marches du podium sont raflées sans surprise par des universités américaines, Harvard en tête. Seuls 4 établissements non américains se hissent dans ce fameux top 20 dont rêve la France. 3 universités britanniques, à commencer par Cambridge, et l'université de Zurich cette année. Un classement devenu au fil des années une référence donc, mais qui est aussi critique, et rappelons-le, car il ne prend en compte que les publications, les prix obtenus, l'excellence scientifique en somme, et non la qualité de l'enseignement ou même l'employabilité des étudiants. Classement qui pousse donc au regroupement des universités de l'enseignement supérieur. Plus on est gros, plus on a de chances d'y figurer. La petite progression de Sorbonne Université confirme cette tendance.
Merci Claire Chaudière. C'est un feu d'artifice chargé d'émotions qui sera tiré ce soir à Nice et sous haute sécurité pour la première fois depuis l'attentat au camion Bélier qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Outre des plots en béton, la préfecture a mis en place une surveillance depuis la terre, depuis la mer et dans les airs avec un hélicoptère de la gendarmerie. Ce n'est pas la banque de la démocratie qui avait été promise au départ il y a un peu plus d'un an, mais un médiateur du crédit vient d'être nommé. Il s'appelle Jean-Raphaël Alventosa, médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, alors que le financement de la vie politique française donne lieu à des scandales récurrents, Élodie Forêt.
Un facilitateur indépendant et impartial, voilà comment se définit ce nouveau médiateur. Sa mission, instaurer un dialogue entre les partis politiques ou particuliers qui se lanceraient dans une élection et des banques parfois frileuses, comme il l'expliquait le 26 juillet lors de son audition devant le Sénat.
On peut concevoir leurs hésitations, compte tenu des contraintes réglementaires, compte tenu des contraintes de réputation, comme elles disent.
Et pas de temps à perdre. Dès le 6 août, Jean-Raphaël Alventosa invite par mail tous les partis à le rencontrer. Pour le Rassemblement National en quête d'un prêt bancaire, c'est une infime lueur d'espoir. Sébastien Chenu, le porte-parole.
Nous lui donnons acte de sa bonne volonté, du souhait qu'il a de faire en sorte que notre mouvement politique, comme les autres, puisse trouver un financement auprès des banques. Mais c'est vrai que sans pouvoir obliger les banques, sans possibilité coercitive, eh bien évidemment sa marge de manœuvre est réduite et reviendra se poser la question de la banque de la démocratie. Il en est d'ailleurs, je crois, lui-même très lucide.
Aucun moyen coercitif. Le médiateur se contentera en effet d'écrire des rapports en cas de litige. Cela nous servira d'audit, se félicite le député Modem Erwan Balanon, lui aussi fervent défenseur d'un organisme de crédit pour les partis. Le Modem qui devrait remettre le sujet sur la table à l'automne sous forme d'une proposition de loi.
Le conseil d'administration d'Air France KLM est très attendu demain. D'après Libération, c'est là que devrait être choisi le prochain patron de la compagnie, sans PDG depuis le mois de mai. Le favori vient d'Air Canada, il s'appelle Benjamin Smith, mais se heurte à la défiance des pilotes français. Le loup est revenu en France, cela fait déjà une vingtaine d'années, du côté des Alpes-Maritimes, mais on en est désormais sûr, il a poussé jusque dans l'Yonne. En juin dernier, 15 brebis ont été tuées dans ce département de Bourgogne-Franche-Comté, et l'ADN des poils laissé par le prédateur à parler, c'est bien le loup. Une présence qui inquiète Laurence Gaudin, la propriétaire du troupeau attaqué.
Pour mes amis éleveurs, au miracle, il n'y a que nous qui sommes touchés. Mais ça ne va pas durer. Hein. Si ça s'installe là, de toute manière, il y en aura d'autres éleveurs qui seront touchés dans peu de temps. Hein. Faut pas rêver. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelle attaque. Mais on sait qu'il est là, puisqu'il est vu régulièrement, en journée ou la nuit. Après, moi, je considère qu'il n'a pas sa place ici, quoi. Ou sinon, faut retrouver un système de production qui n'est pas celui qu'on a dans la région. C'est-à-dire faire pâturer 3 mois dans l'année, faire l'annelage tout en même temps. Nous, on a des annelages qui sont étalés sur l'année. Prendre, je sais pas, un aide berger, mais qui va financer, j'en sais rien. Mais c'est pas notre système, quoi. On n'est pas en montagne. Les gens veulent que les animaux pâturent, qu'ils sortent, qu'ils voient l'herbe. Moi, il n'y a pas de problème, c'est exactement mon objectif. Mais pas avec un loup, quoi. C'est pas possible. Je n'élève pas mes brebis pour qu'elles se fassent manger par un loup, quoi.
Propos recueillis par Isabelle Rose de France Bleu Auxerre.
On parle maintenant du film qui a fait sensation lors du dernier festival de Cannes, Le monde est à toi de Romain Gavras. Eh bien, ce film sort en salle aujourd'hui.
Et quel casting d'abord, Isabelle Adjani et Oulaya Amamra côté féminin, la révélation de Divine. Côté homme, Vincent Cassel et Karim Leclou. Un film de gangster qui fait référence à Scarface mais qu'on situerait plus dans la veine Tarantino, Corinne Pellissier.
Tout ou presque renvoie à l'original. L'argent facile, la drogue, les armes, jusqu'à ce titre en forme d'hommage à la réplique la plus célèbre du film Scarface de Brian De Palma, « Le monde est à toi ». Pourtant, Karim Leclou, le héros de Romain Gavras, n'a pas grand-chose à voir ici avec Tony Montana. Au lieu de rêver de mitraillettes et d'hélicoptères, lui se verrait bien couler au contraire une petite vie tranquille, loin des arnaques de sa mère Isabelle Adjani et des trafics de son ami Poutine, le petit caïd du quartier.
C'est quoi ton projet ?
Je veux développer la franchise Mr Freeze au Maghreb.
C'est ta mère qui a la recherche ?
Pour échapper à ce destin de petite frappe que le monde entier lui prédit, Karim Leclou va s'embarquer ici pour un road trip rocambolesque jusqu'en Espagne, au programme de l'humour, toujours absurde, des personnages hauts en couleur et un Vincent Cassel génial en roi de la loose amateur de complot. Un film très réussi qui n'oublie pas non plus de se moquer des idées reçues, des préjugés sur la banlieue.
T'es complètement con quoi ? Un gamin c'est précieux.
Tu veux que je me fasse crier à la mort ?
C'est la vie.
C'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut nous.
Ah voilà.
Hey ! Terroriste !
C'est bien fait d'appeler ta mère.
Un mois après la victoire de l'équipe de France, certains supporters des Bleus vont s'arracher aujourd'hui le nouveau maillot avec ses deux étoiles. Et si le sacre des footballeurs tricolores a conforté la position de leur entraîneur Didier Deschamps, Zinedine Zidane, lui, pourrait se tourner vers le championnat anglais. C'est ce qu'affirme l'équipe ce matin. Après trois titres en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Zidane serait intéressé par le poste d'entraîneur de Manchester United.
Zidane, la tentation anglaise, effectivement. C'est le titre de l'équipe ce matin. Merci Sarah Guibaudot. Le temps avec vous Stéphanie Fromentin, oui. Le soleil revient à grand renfort de rayons.
C'est un miracle du 15 août Eric, il est en pleine résurrection et se déploie en toute sérénité dans un ciel immaculé et serein. Une sorte de couronnement de l'été. Quelques zones nuageuses restent tout de même sceptiques face à cette explosion de lumière ardente. Le nord-est de la Corse où les nuages et les averses orageuses présentes dès ce matin vont même un peu déborder sur l'ensemble de l'île de Beauté, les Alpes voire le Var en fin de journée. Autre zone de résistance à l'illumination immaculée. Toute la façade ouest du Pays Basque, au Hauts-de-France ce matin, avec des brouillards localisés des Pyrénées à la Mayenne, mais des nuages plus chargés de la Loire-Atlantique au nord. Et si Mistral et Tramontagne retrouvent une certaine chasteté à 50-60 km par heure, ces nuages s'entêtent des côtes bretonnes aux côtes de la Manche.
On a bien compris, c'était le 15 août. La chaleur accompagne largement cet ensoleillement.
C'est une vraie consécration du mercure. Il réchauffe tout l'hexagone, mais sans excès, juste estival. Il fera 22 degrés dans la Manche, à Sainte-Mère-Église, 26 à Saint-Engrasse dans les Pyrénées-Atlantiques, comme à Conflans Sainte-Honorine dans les Yvelines, 28 à Sainte-Marie dans les Pyrénées-Orientales, 29 à Sainte-Marie-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône ou même à Sainte en Charente-Maritime, jusqu'à 30 degrés à Sainte-Maxime.
La météo assomptionnelle de Stéphanie Fromentin.